France Culture.
France Culture, grand reportage, Aurélie Kiefer.
Sur les 8372 victimes, on a retrouvé les restes de 7100 personnes. Malheureusement, tous les restes retrouvés n'ont pas été identifiés. Quand on sait pourquoi, c'est monstrueux.
À notre époque, le négationnisme progresse, la glorification des criminels de guerre aussi. Il est plus nécessaire que jamais de nous en préoccuper.
Quel que soit ce que j'ai vécu pendant la guerre, je ne voudrais jamais vivre dans une Bosnie sans Serbes de Bosnie, sans Croates, sans les Juifs, sans nos Roms bosniens.
Une commémoration sans précédent se déroulera vendredi prochain dans la ville de Srebrenica en Bosnie-Herzégovine pour marquer les 30 ans du génocide qui a été perpétré, la pire tuerie de masse sur le sol européen depuis la Seconde Guerre mondiale. Entre 1992 et 1995, la guerre qui a suivi l'indépendance de la Bosnie a fait plus de 100 000 morts et provoqué le déplacement de 2 millions de personnes. Dans l'est du pays, les forces serbes ont mené une politique de nettoyage ethnique qui a culminé avec l'offensive sur l'enclave bosniaque de Srebrenica, pourtant décrétée « zone de sécurité » par l'ONU. Du 11 au 22 juillet 1995, plus de 8000 Bosniens musulmans, hommes et adolescents, ont été assassinés sous les yeux des casques bleus néerlandais. Les accords de Dayton, signés à Paris en décembre 1995, ont mis officiellement fin à la guerre et divisé le pays en deux entités autonomes, la Fédération de Bosnie et la République serbe de Bosnie. Mais 30 ans plus tard, le pays est toujours traversé par des tensions communautaires. Milorad Dodik, leader des Serbes de Bosnie, conteste le terme de génocide, pourtant employé par le Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie et par la Cour internationale de justice pour qualifier le massacre de Srebrenica. Le négationnisme n'est pas nouveau, il a commencé avec la tentative de dissimuler le crime juste après la guerre en déplaçant les corps des victimes d'un charnier à l'autre. Aujourd'hui, des familles continuent de rechercher leurs proches, un millier de personnes sont encore portées disparues. N'oubliez pas Srebrenica, c'est un reportage signé Mercia Nezic. Bonjour Mercia.
Bonjour Aurélie.
Vous avez signé de nombreux reportages dans cette région et c'était important pour vous d'y retourner une fois encore.
Oui, absolument, parce que Aurélie, il y a des rencontres qu'on n'oublie jamais. Et aujourd'hui, je veux rendre hommage à quelqu'un qui s'appelle Ramiz Nurkic, c'est le ramasseur d'ossements de Srebrenica. Je l'ai rencontré en faisant un reportage dans la région en 2017. Après avoir retrouvé les restes de ses proches victimes du génocide, Ramiz s'était donné pour mission de rechercher ceux des autres disparus. Ce Bosnien a permis à des centaines de familles de retrouver les dépouilles de leurs proches. Ramiz a raconté avoir été apaisé lorsque les restes des siens ont été retrouvés. Je veux aider des mères, des sœurs, des pères à retrouver les restes de leurs proches ou à pouvoir compléter des squelettes, m'a-t-il dit. Ramiz a survécu à la marche de la mort avec d'autres habitants de Srebrenica. Il a réussi à atteindre Tuzla après la chute de la ville. Il nous a quittés en 2022, emporté à 60 ans par une maladie fulgurante. Ce paysan travaillait aussi comme ouvrier avant la guerre. Quand il est revenu à Srebrenica en 2002, il avait réussi à survivre parce qu'il cultivait son jardin et avait une vache. La famille réussissait aussi à s'en sortir en revendant des framboises. Rechercher les restes des disparus, je continuerai à le faire tant que mes jambes me porteront, disait Ramiz. Quand je ne le pourrai plus, d'autres devront prendre le relais, mais les corps des victimes doivent être retrouvés.
Notre invitée est Véronique Naoum-Grappe. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes anthropologue, spécialiste des violences en temps de guerre et vous collaborez à la revue Esprit. Nous allons tout de suite écouter ensemble le reportage de Mercia Nezic qui nous emmène d'abord au mémorial de Potocari.
Des milliers de stèles blanches sont soigneusement alignées ici, la même année de décès inscrite sur chaque tombe, 1995. Nous sommes au mémorial de Potocari où reposent à ce jour 6765 victimes du génocide de Srebrenica, des hommes, des adolescents, parfois des enfants bosniens musulmans massacrés au cours de la pire tuerie de masse survenue en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Une liste comportant les noms de toutes les victimes a été gravée dans la pierre à l'entrée du cimetière. Ce matin, dans un silence assourdissant, une silhouette frêle se tient devant une tombe.
Je m'appelle Alilovic Kadira, je suis de Srebrenica. Ici reposent mon beau-père, mes frères et beaucoup de cousins. Nous venons nous recueillir. J'ai perdu des frères lors du génocide. J'ai perdu mon neveu, qui est né en 1980. J'ai perdu des oncles aussi, 50 membres de ma famille. Mon beau-père était âgé, mais mes frères étaient jeunes. Mes enfants, eux, venaient de naître. Ils étaient petits. Certains sont nés à la chute de la ville.
Vous avez survécu au siège de la ville, au bombardement, à la faim ?
Oui, je m'en souviens bien sûr, les balles passaient au-dessus de ma tête, c'était terrible. Les enfants étaient petits. L'aîné était en CE2, c'était traumatisant pour eux, les bombardements, la faim. Ils nous ont regroupés ici, on les regardait séparer les hommes. Nous sommes restés ici 3 jours.
C'est à ce moment-là que vous avez perdu la trace de vos proches qui sont enterrés ici ?
Oui, je ne savais pas qu'on ne retrouverait pas leurs traces jusqu'à mon arrivée à Tuzla, peut-être 5 ou 6 mois plus tard. J'espérais que l'un d'eux allait nous rejoindre, mais personne n'arrivait. Il y a 7 ans, j'ai enterré mon frère cadet et l'aîné plus tôt. J'ai un autre frère dont nous n'avons jamais retrouvé les restes. Pour mon frère aîné, nous avons retrouvé ses restes à 2 reprises, mais il n'a pas été inhumé complet, le plus jeune non plus. Mon beau-père était sans tête. C'est ici qu'on l'a enterré. Et mon oncle, là.
Ressent-on une forme de soulagement après l'enterrement ?
Oui, mais si au moins les corps étaient inhumés complets, bon, au moins il y a des tombes où l'on peut se recueillir, les voir, même si leurs corps sont incomplets.
La commémoration des 30 ans du génocide s'approche. Comment vous sentez-vous ?
Il n'y a que moi qui sache comment je me sens. Je viens ici à toutes les commémorations depuis qu'elles existent.
Lors de la prochaine commémoration, le 11 juillet 2025, 5 victimes tout juste identifiées seront inhumées. Dans les coulisses du mémorial, la préparation s'intensifie dans un climat politique tendu. Depuis que les accords de paix de Dayton ont mis fin à la guerre en Bosnie en 1995, Srebrenica fait partie de la République serbe. Il s'agit de l'une des 2 entités qui composent le pays avec la Fédération croato-bosniaque. Ici, comme dans la Serbie voisine, les autorités ne reconnaissent pas le génocide de Srebrenica. Mirela Osmanović est la porte-parole du mémorial qui s'est donné pour mission de préserver la mémoire des faits.
À notre époque, le négationnisme progresse, la glorification des criminels de guerre aussi. Il est plus nécessaire que jamais de nous en préoccuper. Vivant dans l'environnement qui est le nôtre, nous sommes entourés de négationnistes. Les enfants de Srebrenica, la 2e génération de rescapés, vivent dans un environnement qui ne reconnaît pas le génocide. C'est terrible que ce soit reconnu, par exemple, en Australie, un pays lointain, mais pas dans les quartiers où nous vivons. C'est dévastateur, c'est un fardeau supplémentaire pour nos enfants. Ils apprennent la vérité de leurs parents et pas au sein de l'institution scolaire où on devrait leur apprendre l'histoire et les faits historiques. C'est tout simplement triste et regrettable que le système éducatif de cette entité bosnienne ne se préoccupe pas de ces faits. Mais nous, nous sommes ouverts pour travailler avec les étudiants et les lycéens. Nous avons un grand nombre de visiteurs chaque jour, des étudiants, des chercheurs, et nous sommes vraiment un lieu ouvert pour l'apprentissage et la recherche sur le génocide.
D'ailleurs, l'ONU a créé une journée de commémoration du génocide de Srebrenica en mai 2024, à l'initiative de l'Allemagne et du Rwanda, ce qui a suscité la colère du leader sécessionniste des Serbes de Bosnie, Milorad Dodik. Le haut représentant de la communauté internationale en Bosnie a imposé une loi interdisant la négation de ce génocide il y a quelques années, mais le leader sécessionniste des Serbes de Bosnie ne veut pas respecter ses décisions ni celles de Sarajevo. Un mandat d'arrêt a été lancé contre Milorad Dodik en mars dernier. Il a rappelé sa position lors d'un meeting à Banja Luka juste avant le vote de l'ONU.
Sve može. Dakle, operacija vojske Republike Srpske 95. godine u julu bila je greška.
L'opération de l'armée de la République serbe en juillet 1995 à Srebrenica, c'était une erreur. une erreur qui a provoqué un crime énorme. Au nom de la République serbe, j'exprime mon profond respect à tous ceux qui sont morts et mes condoléances à leurs familles. C'était un crime, c'était à la fin de la guerre, dans un moment de lassitude, de haine et de souffrance. C'était un acte de vengeance, mais ce n'était pas un génocide. Ce n'était pas un génocide. Quel terrible mot de disqualification morale qu'ils veulent nous mettre sur le dos, mais aussi sur le dos de nos enfants et de nos petits-enfants. Et dans l'avenir, le peuple serbe sera questionné à ce propos et sommé de penser exactement comme eux. On sait que ce n'est pas comme ça que ça s'est passé.
Pour comprendre comment on en est arrivé à ce drame, il faut remonter à 1992. À plus d'un millier de kilomètres de Srebrenica, Florence Hartmann nous reçoit chez elle à Paris. L'ancienne journaliste et porte-parole du bureau du procureur du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a couvert la guerre en Bosnie pour le quotidien Le Monde. Bonjour Florence Hartmann.
Bonjour, bienvenue. Srebrenica, en fait, n'était plus pratiquement habité par les habitants d'origine, ceux qui habitaient au moment de l'éclatement du conflit en 92. La plupart des gens qui ont pu se sont enfuis parce que l'armée des forces serbes de Bosnie, enfin qui était quand même dirigée, financée et équipée par le centre du pouvoir serbe à Belgrade, sous le régime de Slobodan Milošević, est entrée en Bosnie en début avril 92 pour empêcher la Bosnie d'accéder à son indépendance. Et ils sont entrés principalement par l'est de la Bosnie. Et s'en est suivi dans les premiers mois du printemps 92, une période absolument terrifiante qui a consisté à faire l'épuration ethnique, c'est le terme qu'on utilisait à l'époque, de tout l'est de la Bosnie qui était largement habité par des populations de différentes ethnies, notamment les Bosniens musulmans. Mais les caméras étaient focalisées sur le début du siège de Sarajevo, qui a commencé dès le début de la guerre, une capitale européenne bombardée à la fin du XXe siècle. Et pendant cette période-là, loin des caméras et dans un silence total, toutes les villes de la vallée de la Drina et les villages ont été attaqués, la population massacrée ou déportée. Et cette connaissance-là n'a ressurgi que bien plus tard grâce aux témoignages de survivants qui avaient fini par partir au bout du monde pour certains. Donc par rapport aux commémorations qu'on a 15 ans, 20 ans ou 25 ans après, on apprend que dans tel village, des familles entières ont été massacrées, c'est souvent des hameaux.
Avez-vous pu vous y rendre ?
Quand tout l'est de la Bosnie a été contrôlé par les forces commandées par le général Mladic, donc les forces serbes, les journalistes ont pu circuler. Je suis allée dans des villes en demandant où sont les Bosniens musulmans et en me disant, et on, à force d'insister, le commandant de la place finissait par me montrer le dernier vivant. On voyait les noms sur les portes des immeubles ou des maisons qui avaient été changées, ou bien des papiers tamponnés en disant réquisitionnés. On voyait des vêtements jetés par les balcons en bas par les nouveaux habitants. Et c'était des images terrifiantes pour une génération qui n'était pas préparée à voir la guerre en Europe. Donc une partie des habitants ont réussi, soit parce qu'ils ont été déportés, soit parce qu'ils se sont enfuis dans les forêts, à rejoindre les territoires qui n'étaient pas occupés par les forces de Mladic, donc qui étaient protégés par l'armée bosnienne naissante à l'époque, parce que lorsque la Bosnie, en 92, a proclamé son indépendance, elle n'avait pas d'armée. Il y avait une armée yougoslave qui appartenait à tous les peuples yougoslaves, mais qui était passée du côté serbe, et donc le pays était sans armes. En plus, exposé à un embargo sur les armes, donc l'embryon d'armée bosnienne était vraiment minuscule, et d'ailleurs l'armée serbe de Ratko Mladic a pris le contrôle de plus de 60% du territoire en quelques semaines, et rapidement ensuite plus de 70% du territoire de la Bosnie-Herzégovine. Et une partie de la population fuyant ces massacres, ils sont arrivés là. Et c'est comme ça qu'à partir de 92, Srebrenica et les villages environnants se repeuplent d'une certaine manière. Et cette poche de résistance, si on peut l'appeler de résistance, parce qu'elle résistait effectivement, mais plus mentalement et avec une grande dignité que militairement, parce qu'ils n'avaient pas grand-chose, ils n'avaient pas d'armes. Il y a bien eu quelques chemins à travers les forêts pour essayer d'apporter quelques armes légères pour qu'ils puissent se défendre, mais elle est restée là. Et pour les forces serbes, comme j'étais basée à Belgrade, depuis, lorsque la Yougoslavie existait encore, quand j'allais en Bosnie, je passais par la frontière serbe et bosnienne, et là où passaient les militaires et les paramilitaires, et donc je leur parlais à chaque fois, et ils disaient que pour eux c'était une verrue dans une bande de territoire qui leur appartenait désormais pour toujours.
En 1993, l'enclave est déclarée zone de sécurité protégée par l'ONU, suite à un rapport du secrétariat général de l'organisation qui prévient qu'un génocide ralenti est en cours. Les défenseurs de Srebrenica rendent le peu d'armes dont ils disposent. Un petit bataillon de casques bleus néerlandais stationné dans la localité. Le mandat de l'ONU prévoit le recours à la force en cas d'attaque, mais tous les appels du bataillon pour que l'OTAN intervienne avant la chute de la ville sont ignorés. L'ordre de riposte doit venir de l'ONU en coordination avec les puissances occidentales, membres du Conseil de sécurité. Le 11 juillet, la population se dirige vers la base des casques bleus hollandais à Potocari, à côté de Srebrenica, dans l'espoir d'être protégée. Devant les caméras de la télé serbe, le général Mladic distribue du chocolat aux enfants et se veut rassurant.
Tous ceux qu'ils souhaitent seront transférés, qu'ils soient petits, grands, vieux ou jeunes. N'ayez pas peur, allez-y doucement, doucement. D'abord les femmes et les enfants, il y aura 30 bus, ils vont vous emmener jusqu'à Kladianj. Et là, vous allez passer dans les territoires contrôlés par les forces d'Alia.
Ratko Mladic fait allusion à Alija Izetbegovic, élue à la présidence de la Bosnie peu avant la guerre. Parmi les femmes et les enfants qui avaient été parqués à Potocari, puis déportés, s'est rescapée. Nous l'avons rencontrée chez elle à Srebrenica.
Zdravo.
Je m'appelle Shehida Abdulrahmanovic. Vous êtes ici aujourd'hui près du mémorial. Je suis originaire de Srebrenica. J'ai travaillé toute ma vie dans le commerce. J'avais fait des études de commerce. Mon mari était enseignant. Il enseignait les mathématiques et la physique. Bien sûr, comme tout le monde ici, j'ai été victime du génocide. Dans ma famille élargie, il y a plus de morts que de gens qui ont survécu.
Au printemps 1992, des paramilitaires serbes se sont livrés à des exécutions autour de Srebrenica. Le 8 mai, ils ont fait irruption chez vous. Vous avez perdu votre mari.
Des paramilitaires sont venus chez nous. Ils ont emmené mon mari. Nous étions chez nous, moi et les enfants. On ne menaçait personne, vous comprenez. Quand ils sont rentrés, ils ne sont pas restés longtemps. Ils nous ont insultés, ils ont cherché à nous humilier. Puis ils nous ont dit, vous sortez tous. Et je pense que ce qui nous a sauvés, c'est que lorsqu'ils ont voulu nous emmener, à ce moment-là, mon fils a poussé un cri terrible. L'un des paramilitaires, en m'injuriant, bien sûr, m'a ordonné de m'asseoir avec les enfants et ils ont emmené mon mari.
Ensuite, Srebrenica a été encerclée, bombardée.
Et il y avait la faim. Ensuite, il n'y avait plus d'électricité, plus d'eau, les conditions n'étaient plus réunies pour vivre une vie normale. Jusqu'à ce que Srebrenica soit déclarée zone protégée, les bombardements étaient terribles. C'était impossible de trouver un endroit où se cacher des bombardements jusque-là. À ce moment-là, on pensait que personne ne nous maltraiterait ou ne nous liquiderait. Aujourd'hui, je peux dire, après l'expérience que nous avons vécue avec la communauté internationale, que je plains les pays qui voient arriver les casques bleus et les bottes de l'ONU chez eux. Dans ces pays, il n'y a plus de vie.
Shehida, ces journées dramatiques de juillet 1995, le 11, le 12, le 13 juillet, comment les avez-vous traversées ?
Kako ste vi prošli?
Le 11 juillet, mon fils, ma fille et moi, nous avons dû nous séparer à une station-service. Mon fils ne voulait pas venir à la base de l'ONU. Je disais, moi, que nous y serions en sécurité, mais s'il m'avait écouté, je le regretterais aujourd'hui. Il a décidé de traverser la forêt. Il avait 18 ans à l'époque. Les soldats de l'ONU avaient déjà montré leur faiblesse pendant la guerre et des gens avaient compris qu'ils ne nous protégeraient pas. Aujourd'hui, il y a plus de survivants parmi ceux qui ont fui la forêt pour atteindre la ville de Tuzla que parmi ceux qui se sont rendus sur la base du bataillon néerlandais.
Shehida, vous avec votre fille, vous vous êtes rendus à la base des casques bleus à Potocari.
On nous avait assuré que notre sécurité était garantie, qu'on nous transporterait ailleurs, que nous n'aurions à nous soucier de rien. Et donc, bien sûr, nous avons accepté. Mais à notre arrivée à Potocari, la première nuit, c'était l'horreur. On entendait des râles, on entendait des cris. Ils s'introduisaient dans la foule et ils en faisaient sortir qui ils voulaient. Beaucoup d'hommes à Potocari ont disparu quelque part. On ne savait pas où. Des femmes avec des bébés étaient obligées d'aller près des ruisseaux pour trouver de l'eau pour leurs nourrissons. On n'avait rien. Elles revenaient avec des nouvelles terribles. Elles ont vu beaucoup d'hommes massacrés, beaucoup d'hommes sans tête, beaucoup de sang. Elles n'étaient plus saines d'esprit en revenant.
Il y a eu des viols.
Naravno, oni su unutra ulazili, presvučeni u odjela holandskih vojnika.
Bien sûr, certains se déguisaient en soldats néerlandais. Ce n'était pas difficile pour eux d'emmener des hommes ou des filles dans les coins. Quand je suis sortie dans la rue avec ma fille, il y avait une famille de mon quartier, des catholiques, Ante et sa femme Anica. On est restés ensemble, on était voisins. Ma fille avait très peur. Ante n'arrêtait pas de réconforter ma fille. Il disait, ne t'inquiète pas, maintenant nous allons à Tuzla, n'aie peur de rien. Moi j'avais les jambes bleues, le corps, les mains bleues, ma fille me pinçait de peur. Elle avait 14 ou 15 ans. Quand nous sommes sortis dans la rue pour monter dans le bus, ils nous ont séparés d'Ante. On ne nous avait pas prévenu qu'ils séparaient tous les hommes des femmes. Je ne savais pas ce qui se passait. Il fallait monter dans le bus rapidement et on ne savait rien.
Un jeune journaliste bosnien avait décidé, comme le fils de Shehida, de fuir par la forêt. Mais il n'a pas survécu à la marche de la mort. Nino Čatić a envoyé un dernier appel au secours. C'était le 10 juillet 1995.
Srebrenica est en train de se transformer en un véritable abattoir. Les morts et les blessés sont constamment transportés à l'hôpital. C'est indescriptible. Chaque seconde, 3 missiles meurtriers s'abattent sur cette ville. À l'heure actuelle, 17 morts et 57 blessés graves et légers viennent d'être transportés à l'hôpital. Quelqu'un au monde peut venir voir la tragédie qui frappe Srebrenica et ses habitants. Un crime odieux est perpétré contre la population bosniaque de Srebrenica. La population de cette ville est en train de disparaître.
Les restes de Nino Čatić n'ont jamais été retrouvés à ce jour. Un homme a consacré sa vie à la recherche des corps. Amor Machovitch vient tout juste de prendre sa retraite de la direction de l'organisme chargé de la recherche des disparus. Nous le rencontrons dans un café discret de Sarajevo.
Od tog broja 8372 računa se da su pronađeni posmrtni ostaci negdje oko 7100.
Sur les 8372 victimes, on a retrouvé les restes de 7100 personnes. Malheureusement, tous les restes retrouvés n'ont pas été identifiés. Quand on sait pourquoi, c'est monstrueux. Ces personnes ont été tuées après avoir été capturées ou après s'être rendues. Leurs corps ont été enterrés, puis avec les mêmes machines, des bulldozers, ces corps ont été déterrés des fosses primaires. Ils ont ensuite été transférés dans des fosses communes secondaires.
Prebacivani u sekundarne masovne grobnice, čak imamo zabilježene primjere postojanja i tercijarnih masovnih grobnica, što znači da je...
Il existe aussi des fosses communes tertiaires, ce qui signifie que le corps d'une victime a été déterré deux fois, puis transféré vers de nouveaux emplacements. Un grand nombre de victimes du génocide, dont les restes reposent aujourd'hui à Potocari, y ont été inhumés alors qu'ils étaient incomplets. Leurs ossements sont toujours enterrés à Srebrenica et dans les environs, dans ce qu'on appelle des fosses communes secondaires. Il s'agit d'une tragédie supplémentaire qui hante encore les familles des personnes tuées.
Mnoge majke Srebrenice su nakon odgađanja trenutka suočavanja sa istinom.
Beaucoup de mères de Srebrenica repoussaient le moment de faire face à tout cela. Elles se disaient qu'il n'y avait plus d'espoir et elles acceptaient d'inhumer 1, 2, 5, 6, 10 ou 50 ossements de leurs enfants. Et puis quand elles se disaient que c'était la fin, qu'elles allaient peut-être trouver une forme d'apaisement, nos enquêteurs frappaient à nouveau à leur porte. Ils leur disaient que de nouvelles tombes avaient été découvertes, contenant des ossements de leurs fils dont les obsèques avaient déjà eu lieu. Et qui sait jusqu'à quand ça va durer ?
Imamo drastičan primjer jednog mladića iz Vlasenice, Musić Kadrija, koji je streljan 12.
Nous avons un exemple dramatique d'un jeune homme, Musić Kadrija, qui a été fusillé entre les 12 et 13 juin 1995 à Kravice. Ses restes ont été disséminés dans 5 fosses communes différentes. Une partie a été retrouvée dans une fosse commune primaire où son corps avait été enterré complet. Puis des bulldozers ont décimé ses ossements dans un rayon de 30 km dans 4 autres fosses communes, dont 3 sont certainement des fosses communes secondaires. Des restes ont également été retrouvés dans une tombe tertiaire. Il s'agit d'une décharge près de Srebrenica.
Centru u Tuzli nalazi se gotovo stotinu žrtava genocida u Srebrenici.
Le centre d'identification de Tuzla abrite près d'une centaine de victimes du génocide de Srebrenica, auxquelles nous n'avons pas réussi à redonner un nom et un prénom. Ils ont été retrouvés dans les mêmes fosses communes que les victimes qui ont été identifiées. Mais jusqu'à présent, aucun de leurs proches parents ne s'est présenté pour donner une goutte de sang, ce qui permettrait de les identifier. Les restes de certains d'entre eux se trouvent à Tuzla dans des sacs blancs mortuaires depuis plus de 20 ans. Je suis l'une des rares personnes qui tente depuis des années de convaincre les autorités qu'il est nécessaire que ces victimes non identifiées reposent à Potocari afin qu'elles soient inhumées. Ils le méritent. Ils devraient être à Potocari et pas dans un lieu comme ça. Je pense que le moment est venu de dire au revoir de manière digne et humaine à cette centaine d'habitants de Srebrenica dont les corps n'ont pas été identifiés.
Aujourd'hui, 7600 personnes sont encore portées disparues en Bosnie. L'un des plus grands charniers découverts dans le pays est situé à Tomašica, dans les environs de Prijedor, à plus de 200 km de Srebrenica, dans le nord-ouest du pays. En 2013, plus de 400 corps y ont été découverts. 25 500 personnes en tout ont été exhumées à ce jour des charniers dont regorge la terre de Bosnie. Une douleur encore vive, comme en témoigne cette exposition permanente consacrée au génocide de Srebrenica au cœur de Sarajevo, où le tourisme du souvenir est très développé. On peut également y visiter le tunnel qui reliait la capitale bosnienne assiégée à l'extérieur pendant le siège, ou le musée de l'enfance pendant la guerre.
Je m'appelle Emir Bektasagic. Je suis le conservateur de la galerie
11-7-1995.
Je vais vous faire parcourir l'exposition. La première partie, c'est un mur où sont inscrits les noms des victimes de Srebrenica. Il contient les noms de 8372 personnes disparues après la chute de Srebrenica. La liste de leurs noms court sur le mur commémoratif de 18 mètres de long au début de la galerie. Dans cette salle, ici, on trouve les portraits de 650 personnes. 500 des personnes représentées sur ces portraits ont moins de 18 ans. Et ici, c'est le début de l'exposition de photos de Tariq Samara. C'est un photographe bosnien. Il a travaillé sur le thème des conséquences du génocide entre 1999 et 2004. Nous commençons par la première photographie qui montre Srebrenica en 2002. C'était une ville qui était encore abandonnée à l'époque. Le lent redressement de la ville et sa reconstruction ne font que commencer à ce moment-là, 7 ans après la guerre et le génocide. Voici ici les photos de Tariq Samara prises dans les camps de réfugiés. Il s'est rendu sur place, ils existent encore aujourd'hui en Bosnie-Herzégovine, 30 ans après la guerre. Ces camps de réfugiés ont été construits dans le nord-est de la Bosnie, près de Tuzla. Plusieurs d'entre eux ont été bâtis grâce à l'aide internationale. Voici l'un d'eux, Karaula. Souvent, seules les femmes y vivent. Elles attendent d'être fixées sur le sort des personnes disparues. Les recherches se poursuivent des années après la guerre. L'une des photos montre une mère de Srebrenica. Et à côté, on voit un collage qui est posé sur le canapé, un collage représentant les hommes de la famille qui ont disparu. On peut voir en haut de la photo qu'il y a des poignées. Cette femme porte cette photo sur sa poitrine. Chaque fois qu'elle sort, où qu'elle aille, ils sont toujours avec elle. Oui.
En quittant l'exposition, nous nous retrouvons devant le Sarajevo City Center, l'un des plus grands centres commerciaux des Balkans aujourd'hui. Pendant la guerre, ici se trouvait la Sniper Alley, une zone où les tireurs embusqués traquaient les Sarajeviens. 30 ans après, cet endroit suscite des émotions contrastées à ce que nous croisons. Une étudiante née après la guerre, un Sarajevien qui se souvient du siège et une commerçante venue de l'entité serbe.
Je m'appelle Sheila, j'ai 22 ans. Quand je viens ici, je croise beaucoup de monde. C'est tellement intéressant, des gens d'ethnies et de religions différentes. Ces derniers temps, le tourisme a connu une explosion ici. Parmi les gens que je fréquente, personne ne parle beaucoup de la guerre. Je ne fréquente pas que des musulmans bosniaques, mais plein de gens différents. Mais nous aussi, on voit les dégâts de la guerre. Des bâtiments encore criblés d'impacts de balles ou qui ont été incendiés. Nos parents, qui ont survécu à la guerre, en parlent. C'est surtout traumatisant pour eux. Parfois, ils nous racontent à quel point cela a été dur de survivre, avec peu de nourriture, peu d'eau, en se demandant si leurs proches étaient vivants. Notre génération espère être épargnée.
Je suis Yasmina et je viens de Rudo. La localité est située à la frontière entre la Serbie, le Monténégro et la Bosnie, dans la Bosnie de l'Est. Nous exposons ici les produits de notre ferme. Ils sont à base de fruits, de plantes et de miel. Notre objectif à tous est de gagner de l'argent pour vivre mieux. Il y a des extrémistes en République serbe de Bosnie comme au sein de la Fédération. On ne peut pas y échapper. Ici, on a connu la guerre. Il s'est passé des choses. Les guerres les plus difficiles sont les guerres fratricides. Il faut travailler à la réconciliation pour que les gens n'y pensent plus et passent à autre chose. il faut se concentrer sur la situation économique. C'est ce qui intéresse les gens. Nous voulons intégrer l'Union européenne. Nous voulons vivre normalement, comme tout le monde.
Da se skoncentriše na ekonomsku situaciju, jer to je ono što ljude interesuje. Hoćemo u Evropu, hoćemo da živimo normalno kao svi ljudi.
Adnan, 43, pa ovdje vam je počeo rad.
Adnan, 43 ans. C'est ici que la guerre a commencé. Là, à 100 mètres plus bas, il y a le pont de Suada et Olga. Elles ont été abattues ici par des snipers et le pont porte leur nom.
C'était les premières victimes de la guerre ?
Oui, parmi les premières. À Sarajevo, chaque trottoir rappelle la guerre. Et pas seulement ici. Nous sommes entourés de collines partout où ils pouvaient nous voir et ils nous tiraient dessus. Ce n'est pas seulement le cas du quartier de Marinvor où nous nous trouvons. Des traces de la guerre, il y en a partout à Sarajevo. Malheureusement.
La commémoration des 30 ans du génocide s'approche. Comment vous sentez-vous ?
Vous voyez, c'est tout. C'est une plaie qui ne se refermera jamais. C'est une honte pour nos voisins et pour la communauté internationale. Malheureusement, la communauté internationale n'en a tiré aucune leçon. Quand on voit ce qui se passe à Gaza en ce moment.
Adnan a choisi de rester à Sarajevo. Mais quasiment un Bosnien sur deux vit désormais à l'étranger. Ce petit pays a perdu un peu plus d'un million d'habitants depuis 1992 à cause de la guerre et du chômage de masse. La Bosnie affiche l'un des taux d'émigration les plus élevés d'Europe. Les Bosniens sont disséminés à travers le monde. C'est ici, dans la capitale française, que certains se sont réunis ce dimanche pour écouter le témoignage d'un rescapé de Srebrenica. Une conférence organisée dans les locaux d'une association parisienne d'étudiants musulmans dans le 20e arrondissement de la ville. Ils vivent aujourd'hui dans la région parisienne. Nous croisons à l'entrée une femme d'une soixantaine d'années. Elle ne parvient pas à contenir son émotion quand nous lui demandons simplement de quelle ville elle vient. Une localité située dans l'est de la Bosnie qui a subi le nettoyage ethnique. Plus loin, une jeune femme qui a épinglé sur sa robe la fleur de Srebrenica.
Bonjour, oui, je m'appelle Nejla Dedagic. Je suis originaire de Sarajevo en Bosnie-Herzégovine et j'habite en France depuis 2015. J'ai 28 ans. Je suis franco-bosnienne, naturalisée française depuis pas très longtemps. Je suis juriste en entreprise.
Les 30 ans du génocide de Srebrenica arrivent. Vous, autant que bosnienne qui vivez ici, on a vraiment l'impression que c'est un génocide oublié, une guerre oubliée. Vous savez, quand la guerre a éclaté en Ukraine, sur les plateaux radio, les plateaux télé en France, tout le monde disait « c'est la première fois qu'il y a la guerre en Europe depuis 80 ans ». Comment vous vivez-vous tout ça ?
Dans les rencontres que je fais avec des personnes ou quand je parle, je ne sais pas, à mes collègues par exemple, ou à mes amis, ils sont au courant. Alors, peut-être pas complètement oubliés, ils savent qu'il y a quelque chose qui s'est passé, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont vraiment au courant des faits. Et je pense que c'est ça en fait qui est important, c'est de ne pas juste dire « il y a eu une guerre à un moment donné dans un pays, quelque part en Europe », mais se dire « il s'est passé ça ». Ce sont les événements, ce sont les faits historiques. Il y a eu des décisions de justice suite à ces événements. Parce que si, comme on dit, si on oublie l'histoire, on est amené à la répéter. Honnêtement, même lorsqu'on voit les événements d'aujourd'hui, que ce soit l'Ukraine, que ce soit la Palestine, on est en train de vivre une époque très difficile. On est en train de voir des crimes de guerre se répéter. Ça fait ressurgir toutes ces émotions.
Un constat partagé par ce rescapé de la marche de la mort entre Srebrenica et Tuzla. Au calme, dans une autre salle, il s'apprête à raconter son histoire. Il nous parle du quotidien âpre des habitants de la ville. Dobar dan.
Bonjour.
Je suis Muizin Omerovic. J'avais 17 ans. J'étais au lycée quand la guerre en Bosnie a commencé. J'ai survécu à Srebrenica. Après, je suis parti en Suisse avec ma famille. J'y ai vécu 4 ans. En 2005, je suis revenu dans mon village natal, dans les environs de Srebrenica. J'y habite encore aujourd'hui, avec ma femme et nos 4 enfants. Au début, c'était difficile. Nous étions maltraités, il y avait des menaces. Mais cette volonté de vivre là où je suis né, malgré tout ce que j'ai vécu, était plus forte que tout. Aujourd'hui, en ce qui concerne les relations entre les Bosniaques et les Serbes, la situation est normale. Nous n'avons pas de problème. Je travaille avec des collègues serbes. Nous vivons ensemble. Je suis prêt à raconter à tout un chacun chaque seconde de ce que j'ai vécu pendant la guerre.
svako priča svoje iskustva.
Je pense que les gens se parlent. Chacun raconte son expérience, souvent douloureuse, d'un côté comme de l'autre. Quand Vučić et les officiels de Belgrade diront qu'un génocide a eu lieu à Srebrenica, les Serbes d'ici suivront. Tout dépend de Belgrade. Les gens, eux, ils coexistent, ils s'entraident, ils travaillent ensemble, ils se battent pour survivre. Les jeunes, serbes et bosniaques, fuient. Srebrenica est en train de mourir. Vous vivez sous les menaces quotidiennes de sécession de l'entité serbe. Vous ne savez pas quand vous vous couchez, si ce sera la guerre à votre réveil, si votre famille ne va pas se réveiller dans un camp de concentration. Vous avez l'impression d'avoir échoué, malgré tous vos combats, malgré les sacrifices pour que la vie continue, pour envoyer le message que personne ne peut éteindre la vie ici, ni détruire cette population. Les idéaux de l'Union européenne, nous les défendons. Là-bas, nous nous battons pour une société multiculturelle et multiethnique. Nous sommes seuls à nous battre, comme entre 92 et 95. Nous avons besoin d'un système qui fonctionne, d'un état de droit. Nous ne les avons pas, malheureusement, alors que nous sommes un peuple européen. Les accords de Dayton ont figé le pays dans l'état où il se trouve. Ni en guerre, ni en paix. Rien n'a été résolu. Ça divise le pays et crée des problèmes. En plus, ça plombe l'économie. Je travaille à la mairie de Srebrenica et je vis à la campagne. Nous faisons de l'agriculture aussi. Mon salaire est de 1500 marques, ce qui correspond à 750 euros. Cela ne nous suffit pas. Ma femme ne travaille pas. Elle est institutrice de formation, mais il n'y a pas de boulot. Elle n'a jamais travaillé. Nous nous sommes lancés dans l'agriculture pour vivre normalement, pour aider les autres aussi. Des gens sont dans des situations pires que la nôtre. Je fais partie des heureux qui ont du boulot. Pour tout vous dire, à l'école où sont scolarisés mes enfants, sur une centaine de parents d'élèves, nous sommes seulement 4 à avoir un emploi stable. Les autres survivent grâce à leur jardin ou à des jobs saisonniers. Ils sont dans des situations pires que la mienne, de loin. Moi, mon rêve bosnien, c'est que la Bosnie-Herzégovine devienne un pays démocratique normal. Quel que soit ce que j'ai vécu pendant la guerre, je ne voudrais jamais vivre dans une Bosnie sans Serbes de Bosnie, sans Croates, sans les Juifs, sans nos Roms bosniens. Parfois, je me sens comme quelqu'un qui parle dans le vent, face à un mur, avec l'impression que personne ne m'entend. Là-bas, la situation ne s'améliore pas. J'espère qu'en témoignant, en racontant mon histoire douloureuse et tragique, que les choses s'amélioreront. Je considère que c'est mon devoir.
La perspective européenne paraît encore lointaine. La Bosnie peine à remplir les critères d'adhésion. Quant à Muizin, il est retourné à Srebrenica une fois son devoir accompli. À l'approche de la commémoration des 30 ans du génocide, il retient son souffle, comme tous les habitants de la ville martyre bosnienne.
N'oubliez pas Srebrenica, c'était un reportage de Mercia Nezic avec Alison Vikrobek à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Pour prolonger ce reportage, nous sommes avec l'anthropologue Véronique Naoum-Grapp. Vous avez écouté ces témoignages 30 ans après les faits. De toute évidence, pour les personnes qui ont traversé cette période, la page n'est véritablement pas tournée. Ne serait-ce que parce que la quête des restes des victimes n'est pas achevée. C'est pour certaines familles une forme de torture mentale qui se poursuit.
C'est une espèce d'épreuve très troublante de passer de la mémoire à l'histoire. 30 ans, c'est comme si c'était hier, en revoyant le film que je conseille, La voix d'Aïda de Jasmila Banić. L'épisode, les quelques jours à Srebrenica de juillet 95, sont des jours impossibles à métaboliser. Et je m'en souviens d'autant plus que quand Srebrenica est tombée, j'étais à Paris. Je vais revenir à votre question, mais je voudrais un peu expliquer quel est le lien que j'ai avec cette guerre et ce terrain. Août 95, j'étais à Sarajevo. Et là, avec Juan Guatisolo, on va à l'hôpital Kočevo où un ami nous emmène. Et là, on rencontre trois jeunes de Srebrenica, dont l'un n'avait plus de jambes, l'autre était blessé atrocement, le troisième. Et on n'avait pas encore les informations, mais en août 95, et on le sait, mais on n'a pas du tout. Faut voir à quel point l'histoire en temps réel ne ressemble pas au récit rétrospectif qu'après coup, qui se ressemble à une espèce de film très compréhensible. Là, vous êtes dans le présent, vous êtes en suspens, vous ne savez pas. Et donc, les trois jeunes, on leur dit bonjour, et je m'en souviens toujours parce qu'ils nous disent stop. Dites-nous qui vous êtes, ça fait 3 ans à Srebrenica qu'on n'a jamais vu un visage étranger. Mais d'où vous venez? Ils nous regardent, mais qui êtes-vous? Alors donc, on se présente et ils nous ont fait tout le récit avec la marche de la mort de A à Z. Et d'ailleurs, Juan Guatisolo a envoyé le texte donc à LPI, ce qu'il a publié. Et donc, juste pour revenir à la question à laquelle je n'ai pas répondu, une des choses les plus particulières et les plus, comment dire, spécifiques en termes d'atteinte aux droits humains et de blessures psychiques et toujours physiques, parce que les blessures morales, elles font souffrir physiquement, c'est la question des disparus. C'est ce qui se passe aussi en Syrie, un nombre incroyable de disparus, plus de 175 000. Il y a encore des hommes qui écrivent à leurs femmes 10 ans après la disparition. Où est-il? Comment ça s'est passé? Qu'a-t-il vécu? Cette histoire de retrouver les restes. Alors on sait que l'agresseur, dès le lendemain où les charniers ont été remplis, pensait déjà à la version des faits, à son révisionnisme là, en temps réel, à masquer les crimes. Et ce premier mensonge sera la base, je dirais, physique du révisionnisme à venir. C'est pas, alors, les quatre charniers, donc ils vont envoyer les bulldozers la nuit, et certains conducteurs de bulldozers vont vomir et s'enfuir et témoigner, mais qui ramassent les Maccabées, mais la terre aussi, et parfois la poignée de porte, et parfois une terre qui est la terre typique du premier charnier. Mais ils vont l'emmener dans 4 endroits différents. Et même un corps a été, selon les dernières informations, a été le même corps retrouvé dans 17 endroits différents. Parce que l'idée était de disperser les Maccabées, ce qui en restait, le long d'une ligne de front pour faire croire in fine que ces morts-là avaient été tués dans le combat. Quand le génocide est en place, c'est ce qu'il y a de vertigineux et d'hallucinant, donc là, dans la décision, et qui suppose une planification, une organisation, et qui, à mon avis, était en place à Vukovar et dans toutes les villes qui ont été, c'était pas la première fois Srebrenica. On dit c'est la fois la pire, mais ce n'est pas la première fois dans cette guerre-là, car c'était toujours comme ça. Avec les variantes, les femmes dans les camps, ou parfois toute une population mixte dans des camps où ils perdaient 30 kilos, ils étaient brûlés sur des pneus, enfin quelque chose d'assez radical et une logique génocidaire.
Les plus jeunes sont tournés vers l'avenir, mais ils portent eux aussi le poids de ce passé. Pour pouvoir avancer, surmonter un tel traumatisme, il y a des étapes nécessaires. Qu'est-ce qui n'a pas été réglé?
Alors imaginez qu'un tiers de l'Allemagne ait été resté à Hitler et aux nazis. Mettons Hitler, bon, il avait disparu, mais la logistique nazie, les gens nazis, des amis serbes nous disaient, nous, en Serbie, on a 15 000 assassins qui se baladent, et disons qu'un tiers de la, c'était Dayton, avec Milosevic, trinquant ensemble, et donc, vous avez un tiers de la Bosnie qui est encore sous la logistique de Belgrade, c'est-à-dire la logistique communiste. Et c'est vrai aussi pour au Kosovo du Nord, c'est extraordinaire. C'est un autre système, c'est une autre façon de payer les retraites, c'est une autre manière, un autre lien social. C'est extraordinaire, c'est une différence énorme, sociologique, économique, idéologique. Donc ils sont là. Et eux, quel est leur enjeu? C'est que ranimer un révisionnisme frénétique en le travaillant, en l'épaississant, en le construisant avec pas besoin encore. Les fake news, c'était pas la peine. De sens, à une époque, il n'y avait ni réseau, ni téléphone portable, ni rien. Ça marchait quand même très bien en face des faits. Et disons que ça aurait très bien marché. Regardez, Hitler a été défait militairement, il le fallait. Mais même dans cette histoire-là, il y a du révisionnisme concernant ce qui s'est passé en Allemagne au milieu du XXe siècle. Alors imaginez, quand le pouvoir en place, qui a été à l'origine de cette politique génocidaire, reste dans un coin et continue d'exercer, surtout avec le lien de Moscou. Moscou a toujours été là. Moscou a toujours favorisé, aidé, donné les conseils du FSB. C'est un même univers. Et ils sont là et ils fabriquent. Or, le révisionnisme, qu'est-ce que c'est? C'est un mot peut-être un peu qu'il faudrait lui-même réviser. Mais disons, la version des faits de l'assassin. Mais quand cette version des faits est entendue par les victimes survivantes, mais c'est infernal. C'est une blessure. Déjà, le génocide, le massacre de masse a assassiné des personnes humaines, physiquement, il y a des survivants, et les survivants sont obligés d'entendre la version des faits de l'assassin comme si c'était une vérité. Mais c'est infernal, ça. Et ça, c'est le révisionnisme.
Il y a quand même eu des condamnations, donc pas une pleine impunité. Vous estimez que la justice internationale n'a pas suffisamment rempli sa mission, ça n'a pas suffi?
On peut pas dire ça, parce que s'il y avait pas eu l'énorme travail du tribunal, avec la façon des règles extrêmement codifiées, extrêmement exigeantes vis-à-vis des victimes, les malheureuses victimes de viol, dans quelles conditions il fallait témoigner, avec les incriminés qui rigolaient, etc. Et les codes du code anglo-saxon, qui sont vraiment très très forts. Et s'il y avait pas tout ce travail, ces archives, et tout ça est en ligne. Tout ça peut être regardé cas par cas. S'il n'y avait pas ça, le révisionnisme en face qui serait, alors là, exploserait complètement. On a cette réalité, on a ce travail. On a 30 ans d'historiens venus du monde entier. Il n'y a pas que des historiens, il y a des anthropologues, il y a des ethnologues, il y a des géographes, il y a eu des recherches maintenant croisées. Et tout ça ensemble donne une réalité qui est la suivante, il y a eu une agression d'un projet politique venu de Belgrade, qui était le projet politique du parti communiste retransformé en socialiste, qui ne voulait pas, avec Milosevic, abandonner un pouvoir du parti unique, qui est un pouvoir économique, sociologique, culturel, et donc de domination. Et c'est bien ça l'histoire, et ils ont dit, puisqu'on ne peut pas refaire la Yougoslavie, on va faire la Grande Serbie.
L'année dernière, l'ONU a institué une journée internationale de réflexion sur le génocide de Srebrenica et a affirmé sa volonté de lutter contre le déni. Est-ce que ça, c'est un signal fort pour vous ou est-ce que c'est un symbole relativement dérisoire ?
C'est un signal fort et très important, et tout ce qui est, et s'il y a un monument à Paris, et s'il y a une espèce que les générations revisitent cette guerre au cœur de l'Europe, au moment de Maastricht, il y a 30 ans, c'est une énorme histoire, complètement mise de côté, comme au loin dans une petite île bétonnée. Oh, il y a eu le génocide de Srebrenica, un génocide d'un jour, point à la ligne, et tournons la page. Et c'est évident que plus on plonge et on comprend, pas seulement de façon artificielle, mais les mécanismes, et qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a immobilisé l'ONU, et comment, et quels étaient les rapports de force, et mieux on comprend et on perçoit et on réalise une tragédie passée, il est évident que mieux on fait face aux tragédies présentes, et il y en a. Il y a Gaza, il y a l'Ukraine, et il y a tout le reste.
Merci Véronique Naoum-Grapp. N'oubliez pas Srebrenica. Le grand reportage de cette semaine était signé Mercia Nezic, réalisation Alison Vicrobeck et Brice Garcia. À la technique, Élise Le, documentation Patricia Miura, Timothée Fernandez-Lopez et Véronique Le Falaire. Pour réécouter ou partager cette émission de la rédaction, rendez-vous sur l'appli Radio France ou sur franceculture.fr.